Bon matin, Nouvelle Vie Châteauguay. Très heureux d'être avec vous. Merci, Pasteur Florian, pour l'invitation à être avec vous pour célébrer Jésus, mais aussi pour apporter le message de la parole de Dieu. Et je veux débuter avec une première question. C'est quand la dernière fois où quelqu'un vous a demandé de le suivre? Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière. Et mon épouse et moi, nous avons 7 petits-enfants et qui vont de 12 ans jusqu'à 1 an et demi. Et j'étais la semaine dernière avec les enfants de notre fille, et qui en a 3. Et le plus vieux a 5 ans environ. Et on est allé les visiter dernièrement, et comme je disais la semaine dernière. Et lorsqu'on est arrivé dans la cour arrière, où il y a un petit boisé, le plus vieux, celui de 5 ans, dit « Papy », parce que c'est comme ça qu'on m'appelle, suis-moi, je veux te montrer la cabane qu'on s'est fait dans le bois. En fait, il s'agit de 3-4 branches qu'ils ont mis comme ça, et c'est leur cabane. Mais avec autorité, il me dit, papy, suis-moi. Alors, j'ai pas pu résister. Je l'ai effectivement suivi. Je trouve que c'était un appel très important que j'avais besoin de, auquel j'avais besoin de répondre. Mais peut-être de votre côté, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver à l'hôpital. Et il y a quelque temps, j'étais à l'hôpital justement pour un examen banal, mais nécessaire. Et je suis entré à l'hôpital, et dans le grand hall d'entrée, on m'avait dit, vous allez dans tel secteur et vous allez à tel bureau. Et lorsque j'arrive dans le grand hall d'entrée, j'ai devant moi, et vous avez certainement vu ça, ces grands panneaux, ces grandes affiches avec toute une liste de départements, de bureaux. Et il y en avait 3 devant moi avec des flèches par en haut, par en bas, à gauche, à droite, dans toutes les directions. Mais j'avais beau descendre tous les 3, je ne trouvais pas le département que je recherchais. Et j'ai beau le faire 2-3 fois, passer à travers, je l'ai probablement manqué. Non, il n'était pas là, mais ça s'est donné qu'il y avait une infirmière qui était juste à côté de moi et qui attendait pour les portes de l'ascenseur. Et je lui dis, excusez-moi, je recherche tel département, mais je le vois pas sur les affiches. Et elle m'a dit, c'est pas grave, je m'en vais justement dans cette direction, suivez-moi. Et j'ai aimé ça parce que dans les hôpitaux, effectivement, vous prenez tel escalier, vous descendez, vous prenez tel ascenseur, vous descendez tel corridor, la 3e porte, c'est pas là, c'est l'autre suivante. Vous savez qu'on peut se perdre dans un hôpital. Et donc, on aime bien se faire dire « suivez-moi », c'est important. On est aussi bombardé d'un autre côté, sur les réseaux sociaux. Hein, on est bombardé par des gens qui sont des vedettes principalement et d'autres qui pensent être des vedettes et qui nous disent « suivez-moi, suivez-nous sur nos réseaux sociaux ». Alors, on est appelé à suivre continuellement des indications ou des personnes. Mais ce matin, je veux vous parler d'un appel à suivre qui est infiniment au-delà et plus magnifique que tous ces appels à suivre que nous pouvons avoir dans la vie, l'appel à suivre Jésus. L'appel à suivre Jésus. Et ce matin, je vous invite à lire avec moi dans un épisode de la fin de l'Évangile de Jean au chapitre 21. Et on va lire les versets 15 à 22. C'est un assez long texte, mais qui va nous donner vraiment, qui va mettre la table pour ce message ce matin. Si vous l'avez sur l'écran, vous l'avez aussi sur vos iPhones, j'imagine. Alors, Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent déjeuné, et juste avant que je continue, juste se placer dans le contexte, après qu'ils eurent déjeuné, il y en a qui c'est ça qui est arrivé ce matin, vous avez déjeuné. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on est? On est après la résurrection de Jésus et nous sommes sur le bord d'une mer, la mer de Tibériade ou le lac de Galilée, si vous voulez. Et ce sont les 11 apôtres qui sont là. Judas Iscariote est déjà décédé. Et on est après la résurrection. Les 11 apôtres sont là et Jésus est là également. Et donc, on se retrouve après la résurrection, Jésus est ressuscité. Donc, après qu'ils eurent déjeuné, Jésus et les 11, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Il lui demanda la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'affection pour moi? » Pierre devint très triste de ce que Jésus lui avait demandé à la troisième fois, « As-tu de l'affection pour moi? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Et Jésus continue, « Ce que je te dis, c'est la vérité. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et quelqu'un d'autre t'attachera et te conduira où tu ne voudras pas aller. » Et le narrateur précise ici, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. En fait, Jésus avait décrit un moment pour la crucifixion. Et ayant ainsi parlé, Jésus dit à Pierre, « Suis-moi. » Ensuite, je peux imaginer Jésus et Pierre qui s'éloignent en fait des autres, parce que Jésus vient, se lève et « Suis-moi » et « Viens avec moi ». Et Jésus s'éloigne en fait avec Simon-Pierre. Et Simon-Pierre entend des pas derrière lui. Et il se retourne et le texte continue. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le dernier souper, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, « Seigneur, qui est celui qui va te livrer? » Et donc, on comprend qu'il parle de Jean, l'auteur de l'Évangile. Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? » Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que ça peut te faire? » Toi, suis-moi. L'appel de Jésus à le suivre est quelque chose de puissant et d'extrêmement magnifique pour moi. Cet appel, c'est pas seulement une opportunité. Pour moi, l'appel à suivre Jésus, c'est un ciel ouvert. C'est un appel à une vie, à un autre niveau. En fait, pour moi, cet appel-là, c'est pas une suggestion. C'est pas une recommandation, c'est pas une invitation, c'est pas un faire-part, c'est pas une offre, une proposition, c'est même pas une exhortation. Pour moi, l'appel à suivre Jésus de la part de Jésus, c'est un ordre. C'est un commandement. Viens, suis-moi. Un appel qui résonne dans nos cœurs avec tellement de force, avec tellement de puissance et d'autorité. C'est comme lorsque Jésus a commandé au vent et à la tempête, tais-toi! Le vent et la tempête n'ont pas résisté, ils ont dû obéir. C'est comme aussi lorsque Jésus a ordonné à Lazare de sortir du tombeau. Lazare sort et Lazare est sorti. C'est un commandement. Et pour ceux qui auraient peut-être aucune idée de qui je parle lorsque je parle de Lazare, ben je vous le raconte très rapidement. Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie, sont des amis proches de Jésus et de ses disciples. En fait, ils l'ont souvent hébergé, Jésus et ses disciples, lorsqu'ils s'arrêtaient à Béthanie. Donc, on est en banlieue de Jérusalem. Pourquoi Béthanie? Parce que c'est plus tranquille que la ville. Hein? Le 4-5-0, c'est plus tranquille que le 5-1-4. Donc, un jour, Lazare tombe gravement malade, subitement, et il meurt. Et Jésus est absent à ce moment-là. Et donc, la famille doit procéder aux funérailles, à l'enterrement, on l'embaume, on le met dans une caverne, dans une cavité qu'on a creusée à même le roc, et on roule une pierre devant, ce qui était la coutume de l'époque. Et donc, Jésus va arriver 4 jours après les funérailles, et le corps sent déjà. Et pour faire une histoire courte, Jésus se rend devant le tombeau où repose le corps de Lazare, et il ordonne, il dit, roulez la pierre, enlevez la pierre de devant le tombeau et où repose Lazare. Et là, c'est la consternation, en fait, c'est le choc pour les gens qui sont rassemblés. Il faut dire qu'après 4 jours, même dans un caveau fermé, scellé, le corps rentre en décomposition et déjà, même la sœur Marthe, la sœur de Lazare, va dire, « Mais Seigneur, il sent déjà, on le sent même à l'extérieur. » Mais Jésus ne se laisse pas arrêter et il ordonne qu'on roule la pierre. Et Jésus va élever la voix avec un ton de grande autorité. « Lazare, sort. » Le mort se réveille. Lazare sort de la mort en fin de compte et il se lève entouré de bandelettes. Et le linge qu'on mettait sur son visage est tombé au sol et il s'avance tranquillement hors du tombeau. Et imaginez la foule qui est sous le choc à ce moment-là. Imaginez juste le fait de rouler la pierre a mis la foule en état de choc. Maintenant, le mort est là, debout devant eux. Ils le voient, ils le reconnaissent. Ils voient le visage. Et j'aurais aimé voir le visage de Lazare à ce moment-là avec une espèce de sourire un peu gêné. Qu'est-ce qui se passe? Les yeux écarquillés. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais mort, j'étais dans l'au-delà et maintenant je suis revenu à la vie de mort que j'étais. Et pour moi, c'est un peu comme s'il venait de naître de nouveau. Je sais pas si vous connaissez cette expérience, naître de nouveau dans la vie, passer de la mort à la vie. Et pour moi, c'est la même chose qui se passe lorsque Jésus lance son appel dans le cœur d'une personne. En 1976, je vous raconte, j'avais 18 ans à l'époque, en 1976, vous ferez le compte pour savoir mon âge. En 1976, Jésus a dit, « Sylvain, sors et suis-moi. » Et Sylvain Tousignan a été capable et a voulu suivre Jésus à ce moment-là. Et je suis passé de la mort à la vie. Et je pouvais, je voulais répondre positivement à l'appel de Jésus. Voyez-vous, Jésus, ce n'est pas... Il est un sauveur, nous l'avons chanté ce matin. Mais Jésus n'est pas un sauveur désespéré qui lance des invitations ici à gauche et à droite en espérant que quelqu'un va dire « oui, je vais suivre ton invitation » un peu par pitié ou par compassion. Jésus ne se demande même pas s'il serait mort et ressuscité pour... pas grand-chose finalement, si ça valait vraiment la peine. Jésus, il n'est pas un homme à la recherche d'amour ou qui tente de partir une entreprise en souhaitant que quelqu'un va embarquer dans son projet de sauver des âmes du jugement éternel. Jésus n'est pas ce genre de personne-là, aucun nom. Jésus, il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Créateur des cieux et de la terre. Et Jésus, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui que le diable n'a pas pu faire tomber dans le péché, celui que la mort n'a pas pu garder, que le tombeau n'a pas pu contenir. Jésus est celui qui a puissance sur tous les éléments de l'univers. Amen. Jésus, c'est Dieu fait chair et tout ce qu'il dit arrive. Tout ce qu'il ordonne s'accomplit. Tout ce qu'il fait, il le fait à merveille. Amen. Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs depuis toute l'éternité et pour toute l'éternité également. Donc, l'appel de Jésus à le suivre, c'est un ordre du Seigneur, du Créateur des cieux et de la terre. Et comme j'ai dit, tout ce que Jésus ordonne s'accomplit tout le temps. Tout ce que Jésus commande arrive, ça arrive toujours, ça arrive tout le temps, parce que Jésus est le Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une main au Seigneur? Aujourd'hui, tu es le Seigneur et tout ce que tu dis s'accomplit. L'appel de Jésus envers Simon, fils de Jonas... C'était pas la première fois que Simon, fils de Jonas, entendait cette voix lui dire, toi, suis-moi. Trois ans auparavant de notre récit, Simon a entendu cette voix-là et il s'en souvient comme si c'était hier, de la même façon que je me rappelle lorsque Jésus m'a appelé, de la même façon que toi aussi tu t'en rappelles. L'évangile de Marc, qui a été écrit et inspiré par la prédication de l'apôtre Pierre, va raconter brièvement, mais puissamment, cette rencontre entre Jésus et Simon-Pierre et cet appel qui a retenti dans son cœur. Alors, je vous invite dans Marc, chapitre 1er, versets 16 à 18, les textes apparaissent sur l'écran. « Comme Jésus passait le long de la mer de Galilée. » Donc, on est au même endroit que dans Jean, chapitre 21, sur le bord de la mer de Galilée, mais trois ans auparavant. Jésus vit Simon, ça c'est notre Simon à nous, et André son frère qui jetait un filet dans la mer, car c'était des pêcheurs de poissons. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, donc à cette parole, ils laissèrent là leur filet et suivre Jésus. C'était la première fois que Simon entendait quelqu'un lui parler de cette façon-là. C'était puissant, c'était rempli d'autorité, rempli de confiance, rempli d'assurance et de conviction, comme jamais personne lui avait parlé de cette façon-là. C'était un ordre, c'était un appel à une vie significative, supérieure, une vie à un autre niveau beaucoup plus élevé. Et en fait, c'est un appel à laisser sa vie de routine, sa vie plate, sa vie ennuyante, habituelle, en fait même esclave du péché, pris dans un autre genre de filet, celui de l'emprise du péché et dans les mailles et les liens d'iniquité. Mais maintenant, il va laisser tout ça derrière lui parce que Jésus le lui ordonne. Il lui en donne la possibilité et la capacité. Simon, fils de Jonas, suis-moi et je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Je vais t'emmener à un autre niveau dans ta vie. Et ça, c'est un appel, en fait, à sortir de la mort vers la vie, de l'esclavage vers la liberté, des ténèbres vers la lumière. Et Pierre va en garder un souvenir toute sa vie. Il va garder un souvenir de cet appel extraordinaire que Jésus lui a donné. Même des décennies plus tard, il va écrire dans sa première lettre ce texte, « Vous êtes une race élue, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Le temps passe, le temps a beau passer pour Pierre. Son appel à passer des ténèbres à la lumière n'a pas diminué en intensité. Au contraire, cette lumière, elle est devenue admirable. Elle a grandi même dans son souvenir de cet appel. Et depuis cet appel-là, puissant que Simon, fils de Jonas, a reçu, il a été rendu à la vie. Et à cause de cet appel, il a pu et il a voulu suivre Jésus. Et il a vécu des choses extraordinaire. Dans les semaines, les mois, les années qui ont suivi, il va assister à de nombreux miracles, des choses qu'il n'aurait jamais vues, jamais connues auparavant. En fait, il a vu le miracle de l'eau changer en vin. Il était à Cana, il était là avec ses disciples. En fait, il a même goûté au meilleur vin au monde, le chanceux. Il a goûté au meilleur vin jamais produit sur cette planète. Il a été témoin de la guérison de cet homme boiteux de naissance sur les bords de la piscine de Bethesda. Il va participer à la distribution des pains et des poissons lors de la multiplication qui a nourri des milliers de personnes à partir de 5 pains pita et 2 harengs fumés. Ils ont nourri une foule et je peux imaginer même la joie et un peu le fou rire que Pierre a dû avoir lorsqu'il a vu Jésus cracher au sol, faire de la boue avec sa salive, faire une petite boulette de boue et mettre ça sur les étendre ça sur les yeux d'un aveugle et ensuite lui dire « va te laver ». Et cet aveugle retrouve la piscine, il va se laver et tout à coup, ses yeux voient. Il est émerveillé. Il voit. Pierre a vécu ces miracles-là. Il les a vus. Et comment vous décrire même son une excitation lorsqu'il a vu Lazare sortir du tombeau, comme je viens de le raconter brièvement. Donc, Pierre a vécu tout ça. Et pour moi, ça, c'est le baccalauréat en théologie pratique le plus extraordinaire qu'il peut y avoir avec l'ITF. C'est le meilleur baccalauréat qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, cette vie d'aventure, cette vie de miracle a été une expérience pour Pierre, mais c'est aussi votre expérience. C'est aussi notre expérience également. C'est un appel à passer à la vie de mort que nous étions. C'est un appel à la lumière hors des ténèbres. C'est un appel à la liberté d'esclaves que nous étions. C'est un appel au surnaturel de charnel que nous étions. Et je crois que cet appel, elle retentit dans ton cœur également aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il y a des gens ici aujourd'hui, alors que je priais pour ces réunions, que je préparais ce message, que Dieu t'appelle, toi, en ce moment même, dans ce message et par ce message, le Saint-Esprit parle à ton cœur, il te nomme pratiquement par ton prénom. Toi, suis-moi. et je vais transformer ta vie au-delà de tout ce que tu peux même imaginer. Suis-moi, peu importe qui, peu importe quoi est autour de toi. Fais juste me suivre. Je t'appelle à me suivre. Je reviens à notre texte de départ. Notre récit de Jean chapitre 21 se passe après la résurrection de Jésus. Donc, on se transporte 3 ans plus tard maintenant. Et Jésus avait dit à ses disciples, après la résurrection, de se rendre en Galilée sur une certaine montagne. Et là, je vais vous retrouver. Je vais vous rencontrer à nouveau là. Et effectivement, dans Jean chapitre 21, ils sont en Galilée. Mais ils ne sont pas sur une certaine montagne. En fait, ils sont sur le bord de la mer de Tibériade ou le lac de Galilée. Ils sont à l'endroit même où, pour certains d'entre eux, ils avaient exercé le métier de pêcheur de poissons. Et ils sont là sur le bord. Et Pierre, je peux l'imaginer, en train de regarder le rivage. Il est sur le rivage et il regarde la mer qui s'étend sur des kilomètres, un endroit qu'il connaît très, très bien. Il y a même des barques qui sont là. Il a vécu son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte à cet endroit-là. Il connaît très, très bien. Mais depuis 3 ans, il ne pratique plus ce métier. Il a choisi de suivre Jésus et ça a été toute une aventure. Mais maintenant, Pierre va prendre une décision qui nous étonne. Je retourne pêcher. Je retourne à la pêche. Et c'est pas juste, je me fais un petit week-end en boys, puis on s'en va pêcher la truite dans un lac et puis on revient lundi matin. Non, je retourne pêcher. Je retourne à mon métier, je retourne à ce que je connais, je retourne à mon ancienne vie, en fait. Et je crois qu'il y avait des raisons qui l'ont amené à prendre cette décision-là. Rappelons-nous, quelques jours auparavant, il avait renié de connaître Jésus. Il avait même juré, « Je ne connais pas cet homme ». M'entendez-vous? Je ne le connais pas. J'ai rien à faire avec lui. Je n'ai même pas d'idée de qui vous parlez. Je ne le connais pas. Et donc, il ne s'était pas tenu pour Jésus à un moment où Jésus en avait peut-être le plus besoin. Et je pense, me mettre à sa place, qu'il se sentait inadéquat, incompétent, coupable, faible, pas à la hauteur. Lui qui avait dit qu'il était prêt à mourir pour Jésus, mais quelques heures plus tard, il renie et complètement de connaître Jésus. Aussi, Pierre, rappelons-nous, il n'est pas celui qui est le plus reconnu pour sa patience. C'est un impulsif, c'est un spontané, mais il peut perdre patience également. Il est rempli de doutes à propos de ses propres capacités à faire du ministère pour Jésus parce qu'il a tellement failli de fois. Les autres qui sont avec lui se sentent pas tellement meilleurs parce que lorsqu'il va dire « je retourne pêcher », les autres disent « on y va avec toi ». Solidarité, man. Hein? On se tient ensemble. Tu vas à pêche, on retourne, nous autres aussi à pêche. Et si le récit de l'Évangile de Jean se serait terminé avec cet épisode, nous aurions un moment démoralisant et un moment triste. Mais merci Seigneur, cette histoire ne se termine pas là. Et je peux t'annoncer que ton histoire ne se termine pas là non plus. La tienne n'est pas terminée non plus. Peu importe où tu es rendu dans ton cheminement avec Jésus, peu importe où tu es rendu dans ta vie chrétienne en ce moment, ton histoire ne s'arrête pas ici. La beauté et la grandeur de ce récit se trouvent en fait dans quelques versets plus haut, au verset 4, où il est dit « Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. » Il y a des versets comme ça qui sont juste « wow ». Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce passage? Je vous remets en contexte. Pierre dit, en fait, il dit la veille au soir, fin d'après-midi, « Moi, je retourne en pêche. » Ils embarquent tous à l'intérieur d'une chaloupe, ils s'éloignent du rivage, et toute la soirée, et toute la nuit, jette un filet à gauche, jette le filet à droite, recommence. Il ramène le filet, une botte de caoutchouc, une canette de bière. Non, c'est pas ça qu'on a besoin. Jette sur l'autre côté des moules, une huître, et pas de poisson. Et toute la nuit, disent, ben voyons donc, on est des gens, on sait pêcher, on a déjà fait ça dans notre vie. Et toute la nuit, ils vont pêcher de temps en temps, ils vont dormir un petit peu, ils se réveillent, ils recommencent. Il n'y a rien qui fonctionne. Et lorsque le matin commence à se lever, le soleil commence à sortir de l'horizon, ils voient qu'il y a un homme sur le rivage. Et cet homme leur crie, « Est-ce que vous avez quelque chose à manger? » Ils disent, « Non, on n'a rien pris, on a travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. » Et cet homme revient et leur dit, « Jetez le filet du côté droit. » Moi, je ne suis pas un grand pêcheur de poissons, mais j'ai comme l'impression qu'en pleine mer, que tu jettes ton filet à droite ou à gauche, ça ne doit pas faire une grande différence. Les poissons se tiennent partout, mais ils vont obéir et ils jettent le filet du côté droit. Et en l'espace de quelques secondes, c'est comme si tous les poissons ont reçu un ordre divin de se jeter dans le filet. Et il y a au-dessus de 150 grands poissons qui vont se prendre dans ce filet au point que le filet est sur le point même de lâcher, de se briser. Et un des apôtres, en fait, Jean, va dire à Pierre, c'est le Seigneur. Ils reconnaissent tout à coup cet homme sur le rivage, c'est le Seigneur. Et Pierre, impulsif, spontané, fait ni un ni deux, il jette à l'eau carrément, et il nage jusqu'au rivage pour retrouver Jésus. Et c'est là qu'il trouve, sur le rivage, il y a du feu d'allumé, il y a des poissons en brochette qui sont sur le dessus. Il y a des pains qui ont été cuits, qui sont juste à côté. Le petit-déj est servi pour eux. Jésus a tout préparé. Et c'est là qu'on retrouve notre texte après qu'ils eurent déjeuné, parce que les disciples sont arrivés, ils ont mangé ensemble. Et ça, pour moi, c'est tellement Jésus. Jésus sur le bord du rivage. Après nos décisions ou tes décisions qui t'ont éloigné de lui, après tes nuits sans dormir, à angoisser, à t'inquiéter du lendemain, après tes efforts multiples qui ont été vains et inutiles pour travailler pour t'en sortir, Jésus est là sur le rivage de tes déceptions, sur le rivage de tes échecs, sur le rivage de tes doutes, et il vient à ta rencontre. Il vient te rencontrer. Parce que Jésus n'a pas terminé avec Pierre. Pas plus qu'avec moi, pas plus qu'avec toi, pas plus qu'avec nous. Jésus n'a pas abandonné Pierre. Jésus se souvient très bien de sa première rencontre avec Pierre, alors que Jésus l'avait appelé à le suivre. Et son appel envers Pierre n'avait pas changé d'un iota. Et Jésus va le ramener dans son appel. Jésus va le ramener dans sa destinée. Et Jésus va avoir une rencontre significative et intense avec Pierre qui va se composer de trois éléments essentiels pour tous ceux qui sont appelés à suivre Jésus. En fait, c'est un appel à aimer Jésus. C'est un appel à tout abandonner pour Jésus. Et c'est un appel à obéir à Jésus, peu importe quoi. C'était mon introduction. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Ben non, j'achève. Cet appel à suivre Jésus exige et demande beaucoup. Notre salut, le salut d'une personne, est entièrement payé par Jésus. C'est gratuit parce qu'on est sauvé par grâce, sans aucun mérite, aucun effort, jamais. Mais le salut n'est pas quelque chose pour autant qui est cheap. C'est pas quelque chose de bon marché. C'est pas quelque chose à rabais. Ce n'est pas quelque chose de seconde main que tu peux retrouver sur Marketplace ou sur eBay. Suivre Jésus signifie de lui soumettre entièrement notre vie pour marcher comme lui-même a marché encore aujourd'hui en 2023. Mais qu'est-ce qui peut bien motiver une personne encore aujourd'hui à tout laisser, à tout abandonner, ses ambitions, ses passions, ses désirs, ses goûts pour suivre Jésus et passer notre vie à lui obéir? Jésus nous en donne la réponse. La motivation, c'est l'amour. C'est le seul pouvoir qui peut motiver ce genre de consécration. Regardez, juste sur le plan humain, les gens qui aiment beaucoup sacrifient beaucoup. Les gens qui aiment beaucoup sont prêts à laisser beaucoup de choses derrière elles pour atteindre l'objet de leur amour. L'amour, c'est un puissant motivateur. Des parents vont littéralement donner leur vie pour leurs enfants. ceux qui sont parents le savent. Si mon enfant est en danger de mourir, je suis prêt à mourir à sa place. Des jeunes vont donner tous leurs efforts par amour pour leur sport. Des hommes, des femmes, littéralement, donnent leur vie à chaque jour par amour pour leur pays, pour leur drapeau, pour leur nation, parce que les gens vivent et meurent pour ce qu'ils aiment. En ce qui concerne la vie d'un disciple de Jésus, c'est l'amour de Dieu pour Dieu qui nous presse, qui nous pousse, qui nous convainc, qui nous motive, qui nous drive. Et c'est pas une motivation qui est nouvelle. Déjà dans la loi de l'Ancien Testament, Dieu avait établi ce genre de relation qu'il veut entretenir avec nous dans ce premier plus grand commandement que nous connaissons tous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. En d'autres mots, que chacune de nos facultés, toutes les composantes de qui nous sommes, chacun des aspects de notre vie en amour avec Dieu. Et le résultat de cet amour-là pour Dieu va nous donner la capacité de le suivre en obéissant à sa parole. Et c'est ce que Jésus a relevé encore dans l'Évangile de Jean. Vous avez ces textes en vrac que je vous donne. « Si vous m'aimez, dit Jésus, vous garderez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Est-ce que j'ai dit le verbe aimer? Il est partout. Il est partout. Et tout ça a rapport avec l'amour pour Dieu. Du début de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par la loi de Moïse et par les psaumes, nous sommes appelés à aimer Dieu avec tout ce que nous sommes et avec tout ce que nous avons. Parce que suivre Jésus a à voir avec aimer Jésus. L'amour, c'est la force de l'obéissance. L'amour, c'est la force du devoir. L'amour, c'est la force du service, c'est l'amour. L'amour, c'est la force du sacrifice ultime, c'est la force de notre adoration, c'est la force de notre fraternité. L'amour, c'est la force de notre relation et de notre communion avec Jésus. C'est essentiellement ce que Jésus veut communiquer et relever chez Pierre. C'est pourquoi Jésus lui demande à trois reprises, « M'aimes-tu? 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 » Et pourquoi est-ce que Jésus pose cette question à Pierre? Parce que nous suivons ce que nous aimons. C'est un principe. Nous servons ce que nous aimons. On va sacrifier pour ce que nous aimons. M'aimes-tu? C'est là la question. Suis Jésus a tout à voir avec notre amour pour Jésus. Voyez-vous, Dieu ne nous appelle pas comme chrétiens à vivre dans le légalisme. La vie chrétienne, c'est pas une liste de règles, de préceptes et de commandements à suivre, pas plus que par la peur ou par la terreur. La vie chrétienne, c'est une vie qui est motivée par l'amour pour Dieu le Père, par l'amour pour Jésus, par l'amour pour le Saint-Esprit. Donc, la question que Jésus demande à Pierre et qu'il te demande également à toi, c'est pas à quel point tu me connais théologiquement. Comment va ta théologie? Est-ce que tu parles de moi? Est-ce que tu témoignes de moi aux personnes qui t'entourent? Est-ce que tu prends du temps pour lire la Bible et prier à chaque jour? Est-ce que tu donnes généreusement à l'Église avec les quatre façons simples et sécuritaires de le faire et autour de toi? Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bon. Tout ça, on le fait. Mais la question à Simon, comme à moi, c'est est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Parce qu'on suit qui nous aimons. C'est un appel aussi à tout abandonner pour Jésus. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? » Avant de parler de ceci, c'est étonnant la façon dont Jésus s'adresse à Pierre. On connaît Pierre. En fait, tout l'Évangile de Jean nous parle de Pierre. On nous parle très peu de Simon, fils de Jonas, sinon que c'est son nom qu'on utilisait avant qu'il se convertisse, avant son appel, son premier appel à Jésus. Après ça, il est devenu Pierre. Mais dans le texte ici, Jésus l'appelle Simon, fils de Jonas. Ça a sûrement dû attirer son attention, parce que c'était son ancien nom, avant qu'il suive Jésus. Hein, ça a attiré son attention comme lorsque j'étais plus petit et je restais à la maison. Quand ma, ma, quand ma mère disait « Sylvain, viens, rentre pour venir souper. » Mais quand elle disait « Sylvain Tousignan, entre, viens souper. » Quand ta mère te nomme par ton nom de famille, tu sais qu'on vient de passer à une autre étape. T'as intérêt à rentrer. T'as intérêt à être là, au poste et à obéir, parce qu'on est passé à une autre étape. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? De qui parle-t-il? Ou de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il parle des autres disciples? Ça serait un peu spécial et embarrassant même de demander à... Je sais pas. Est-ce que tu aimes Jésus plus que tous les autres qui sont ici? S'il dit oui, prétentieux le gars. Comment il fait pour savoir se comparer? Et s'il dit non, qu'est-ce que tu fais ici d'abord? C'est comme, t'es piégé par cette question si Jésus pointe les 10 autres disciples qui sont là. T'es piégé un petit peu. Mais je ne crois pas que Jésus pointait les autres disciples. Je pense qu'il parlait plutôt de, non pas de qui, mais de quoi. Est-ce qu'il parle? Je ne vous ferai pas un cours de grec, mais en grec, il y a trois genres. Il y a le masculin, il y a le féminin et il y a le neutre. C'est comme en latin. Les langues anciennes ont ce genre de particularité grammaticale. Masculin parle des hommes, le féminin parle des femmes, le neutre parle des choses, des objets. Et dans le texte original grec, le « ceci » est au neutre. Il ne parle pas de personne. Il parle de choses. Il parle d'objets. Et même, il y a certaines traductions en français qui ont opté pour cette nuance. Et au lieu de dire, est-ce que Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? C'est plutôt, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Au genre neutre. En fait, Jésus pointe le bateau, pointe les filets. Les poissons, le métier de Pierre. En fait, ce qu'il est en train de lui dire, c'est « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que ces choses, plus que tes rêves, plus que ta carrière, plus que tes habitudes, plus que tes loisirs? Est-ce que tu m'aimes plus que ta vie? Est-ce que tu es prêt à laisser tout derrière toi pour me suivre? Est-ce que tu m'aimes réellement pour laisser ces choses-là derrière toi et me suivre et aller là où je vais te conduire? » Le verbe « aimer » que Jésus utilise, c'est « agapeo ». En grec, ce verbe désigne l'amour le plus noble, le plus haut, le plus élevé, le meilleur. Hein, c'est l'amour dans son sens le plus profond, c'est l'amour avec lequel Dieu nous aime, le plus authentique et le plus divin. Et Jésus lui pose la question, « Simon, est-ce que tu m'aimes avec ce haut niveau d'amour? » Et là, c'est ça la clé de l'engagement à suivre Jésus. C'est Jean Calvin qui disait « Aucune personne ne peut persévérer à suivre Jésus à moins que l'amour de Christ soit répandu et règne dans son cœur. » Pour le dire autrement, je pourrais utiliser les paroles même de l'apôtre Paul. « Personne ne peut persévérer à suivre Jésus à moins d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable et incorruptible. » Et Pierre va répondre à Jésus, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais il utilise un autre verbe. En grec, c'est le terme « philéo ». Philéo, c'est l'affection amicale. C'est l'affection fraternelle. C'est pourquoi j'ai utilisé cette nuance dans le texte que nous avons lu au début. On pourrait dire qu'au moins, ça a l'avantage d'être honnête. Hein? Pierre ne cherche pas à se cacher ou à se élever plus haut qu'il ne l'est en réalité. Alors, Jésus va lui demander une deuxième fois, « Est-ce que tu m'aimes? » Il utilise encore agapeo. Et Simon va rester honnête, « Mais tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Et à la troisième fois qu'il lui demande, « M'aimes-tu? » Il utilise le terme de Pierre. « Est-ce que tu me filéo? Est-ce que tu as de l'affection pour moi? » Il descend à son niveau. Et là, le narrateur mentionne que Pierre fut attristé de ce que Jésus avait utilisé son mot. À la troisième reprise, as-tu de l'affection pour moi? Et Pierre de répondre, Seigneur, tu le sais. Tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Et Jésus va conclure, alors suis-moi. Suis-moi avec l'affection que tu as. suis-moi avec l'affection que tu as aujourd'hui. Et moi, je vais t'emmener à un autre niveau d'amour pour Dieu, à un autre niveau d'amour pour moi. Et c'est pourquoi Jésus va continuer avec ses paroles qui me laissent complètement froid dans le dos. Des paroles qui, au lieu d'être des paroles d'encouragement, sont glaciales. Lorsqu'on lit, ce que je te dis, c'est la vérité. Quand tu étais plus jeune, tu mettais ta ceinture, tu allais où tu voulais, hein, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu vas être vieux, tu vas être entre tes mains et quelqu'un d'autre va t'attacher, te conduire où tu ne voudras pas. Et Jean dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. En fait, il est en train de décrire un moment qui précède la crucifixion. On va t'emmener dans une condamnation où tu vas être attaché sur une croix et crucifié. C'est exactement ça qu'il est en train de décrire. Et je me suis posé la question, mais en quoi c'est une bonne nouvelle? Combien seraient heureux de savoir vous allez mourir crucifié? Hey, je veux t'encourager, mon frère. Tu vas être crucifié à la fin de ta vie. Es-tu pas content de ça? My, bonne nouvelle. Mais voici ce que je crois. Pourquoi Jésus a dit ça à Pierre? C'est comme si Jésus était en train de dire, Pierre, je le sais que tu m'as renié publiquement de me connaître. À trois reprises, tu as nié, tu as juré que tu n'avais jamais été avec moi. Je sais comment tu peux te sentir. Tu te sens faible, indigne, inadéquat, incapable, honteux même d'être là avec moi. Et c'est pour ça que tu voulais retourner pêcher. Mais Pierre, je veux et je peux t'assurer qu'un jour, quand tu vas être plus vieux, tu vas avoir l'occasion de te reprendre et de démontrer, alors qu'on va te demander si tu me connais. Et là, tu vas répondre avec assurance, « Oh que oui, je connais Jésus, je suis chrétien. » Et tu vas le déclarer même au péril de ta vie, même devant la menace d'une crucifixion. Tu vas proclamer mon nom, tu vas confesser mon nom et tu vas être à la hauteur. On va te lier, on va t'emmener dans un lieu où tu vas être crucifié. Mais ce que je te demande simplement, d'ici là, suis-moi et je vais faire de toi un homme qui va être rempli d'amour pour mon nom. Parce que toi seul, tu n'y arriveras pas, mais ensemble, nous allons y arriver. Et tu vas glorifier Dieu même dans ta mort et tous tes frères vont le reconnaître. Voilà pourquoi c'est important que Jésus dise à Pierre comment il va finir sa vie, que tu vas te rendre jusqu'au bout avec moi. Et Pierre avait besoin de savoir que la prochaine fois où il serait confronté dans une situation de vie ou de mort, cette fois-là, il allait rester ferme dans sa foi en Jésus et qu'il ne renierait plus jamais le Seigneur. Il avait besoin de savoir ça, qu'il allait glorifier Dieu même dans sa mort alors qu'il se sentait complètement incompétent. Pierre avait tout abandonné pour suivre Jésus. Il allait obéir à Jésus jusqu'à son dernier souffle, peu importe ce qui lui en coûterait. C'est pas étonnant que lorsqu'il a entendu des pas derrière lui, il s'est retourné puis il a vu Jean. Puis il a dit, qu'est-ce qui va lui arriver à Anthony? Qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Moi, je vais être crucifié. Mais lui, et j'aime la réponse de Jésus, c'est pas de tes affaires. It's not your business. Toi, suis-moi. Regarde pas en arrière. Regarde pas ceux qui suivent, puis ceux qui suivent pas, puis, ah, puis elle, puis lui. Regarde pas les autres pour savoir comment eux ils font. Garde tes yeux fixés sur Jésus quand tu sens que tu as échoué, que tu as failli. Garde tes yeux sur Jésus quand tu es déçu par les autres et quand tu es déçu par toi-même. Garde tes yeux sur Jésus quand tu es jaloux du meilleur sort des autres, quand les autres font mieux que toi. Puis garde tes yeux encore plus sur Jésus quand tout ce que tu fais réussit et que tout ce que tu touches devient de l'or. Suis Jésus. Jésus te dit, que ce soit pour la première fois ou que ce soit depuis plusieurs années, toi, suis-moi. Ce matin, il y a deux appels que je veux faire en conclusion. Pour certains d'entre vous, l'appel de Jésus ou la voix de Jésus se fait entendre dans ton cœur avec force et autorité. Toi, suis-moi, puis je vais transformer ta vie que tu n'as pas idée tout ce que je peux faire. Et tu le sais, il y a cet appel-là dans ton cœur. Il y a des chrétiens, des chrétiennes, un ami, une amie qui te parle de Jésus depuis quelque temps, puis tu as décidé de venir ici ce matin. C'est peut-être la 4e fois, 5e fois, 10e fois que tu viens. Mais ce matin, il y a cet appel qui résonne dans ton cœur et ce n'est pas l'appel du gars au micro. C'est quelque chose en dedans de toi. Comme si ça t'appelait par ton nom. Suis-moi, je t'appelle. Et si il y a cette voix-là dans ton cœur et que tu veux répondre, oui, je veux le faire. Je vais t'inviter tout de suite après la réunion. Viens à l'espace Bienvenue, je vais être là pour t'attendre. Puis il y a quelqu'un là qui va être là également pour te remettre le sac cadeau qu'on veut te remettre. Mais tu veux faire une décision pour Jésus. Tu veux répondre à cet appel. Le deuxième appel que je veux faire, c'est pour tous ceux qui ont déjà répondu à l'appel de Jésus. Il y a quelques années ou il y a peut-être plusieurs années. Mais pour toutes sortes de raisons, les déceptions, les tentations, des attraits de ce monde, des épreuves que tu as vécues, des difficultés, tes propres échecs, tes chutes et tes rechutes et tes rechutes t'ont amené à décider de reculer avec un profond sentiment d'échec et de honte. Et Jésus est ici ce matin sur ton rivage à toi. Puis il t'invite à nouveau à le suivre. Toi, suis-moi. Continue à me suivre avec l'affection que tu as. Continue à me suivre avec le peu que tu as. Continue à me suivre avec le peu de force et de courage que tu as. Viens avec l'honnêteté de ton cœur et réponds à l'appel qui retentit à l'intérieur de toi comme un appel puissant et efficace. Toi, suis-moi. Arrête de regarder à gauche puis à droite, puis arrête de regarder elle puis lui, puis te donner des justifications, toutes sortes d'excuses. Seigneur, je veux répondre, je réponds à ton appel avec qui je suis. Comment je vais faire pour aimer Jésus comme il veut que je l'aime? C'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit envers Dieu et pour Dieu. C'est un amour qui est plus grand que moi. C'est un amour qui est plus grand que toi. C'est un amour qui est plus grand que nous. Puis qui nous vient de Dieu. Et ma prière, depuis des années, et encore aujourd'hui, Seigneur, augmente-moi cet amour pour toi, cet amour pour ta parole, cet amour pour ta présence, cet amour pour qui tu es. Parce que nous suivons ce que nous aimons, nous suivons qui nous aimons. C'est pourquoi l'apôtre Jean, et je termine avec ce dernier texte, l'apôtre Jean va écrire vers la fin de sa vie, il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va chanter un dernier chant pour conclure cette réunion ce matin. Un chant de consécration, un chant où on renouvelle notre amour pour Jésus, notre consécration à Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Je prie que par ton esprit, tu puisses appeler maintenant des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, Seigneur, les appeler à te suivre. Je crois que ce message vient de toi. Ta parole vient percuter des cœurs et il y a des noms en ce moment, il y a des appels dans le cœur des gens. Plusieurs personnes, un retour à toi, un retour à aimer Jésus, un retour à mon appel à suivre Jésus. Mais aussi pour des gens, c'est une première. Seigneur, je veux te suivre. J'entends ton nom qui m'appelle, qui m'interpelle et je réponds oui, je veux te suivre, Seigneur. Alors qu'Anthony va nous conduire dans ce dernier chant, qu'on puisse lever nos mains, nos voix et chanter avec lui, Seigneur. Je veux te suivre, je te donne mon cœur.